Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Les informés sont là jusqu'à 21h pour décrypter les trois principaux sujets de l'actualité du jour. D'abord, la violence aux abords des établissements scolaires à Montpellier il y a quelques jours. Et puis, ce drame à Ivry avec la mort cet après-midi d'un jeune de 15 ans. Des deux côtés, l'enquête est en cours. Mais Emmanuel Macron évoque une société de plus en plus violente, notamment sur les réseaux sociaux. On va s'interroger sur le rôle de ces réseaux. Peut-on restreindre l'accès à certains? Comment surveiller. Notre experte est évidemment autour de la table comme chaque vendredi, c'est Véronique Reissoud, présidente de Backbone Consulting, qui a beaucoup travaillé et qui travaille toujours beaucoup sur tout ça. Des prix planchers agricoles garantis, rien à voir, c'est notre deuxième sujet. L'Assemblée a voté contre l'avis du gouvernement, sans garantie que le Sénat le confirme évidemment, mais est-ce un coup politique ou une réelle solution pour garantir des revenus aux agriculteurs? On en parle avec l'expertise de Jean-Marie Serroni, l'agro-économiste. Et puis le Rwanda, pourquoi Emmanuel Macron avance-t-il dans une repentance 30 ans après le génocide? Doit-il aller jusqu'au mea culpa? Les mois des communautés restent très vifs, vous voulez, très palpables, où l'on réclame parfois d'aller jusqu'à la notion de complicité de la France. On parle de tout ça donc avec nos informés, outre Véronique Reissoud, Béatrice Mathieu, qui est grand reporter à l'Express, et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Un homme de 17 ans a donc été interpellé et placé en garde à vue en fin d'après-midi après la mort de cet adolescent de 15 ans à Viry, agressé hier à la sortie de son collège. La victime a été opérée dans la nuit et est décédée donc dans l'après-midi. D'après les premiers éléments de l'enquête recueillis par France Info un peu plus tôt, il était question de deux ou trois individus encagoulés qui l'ont agressé en sortant précipitamment d'une allée, d'après le récit donc d'un automobiliste qui a découvert le collégien allongé au sol, inconscient, et qui a donné l'alerte. Ce drame, il faut le dire aussi, survient après une autre agression, mardi, à Montpellier, là aussi à la sortie d'un établissement scolaire, une jeune fille qui a été blessée. Trois personnes ont été interpellées, ont reconnu les faits et vont donc être jugées. L'école doit être un sanctuaire, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, on va l'entendre, qui était en déplacement ce matin dans un collège à Paris. C'était prévu avant ces drames. Il appelle à protéger l'école d'une forme de violence désinhibée. On l'écoute.
Moi, je veux que le gouvernement et nous serons collectivement intraitables contre toute forme de violence. Et je l'ai toujours dit, comme nous l'avons été quand il y a eu d'ailleurs des émeutes. Ça a été le record d'interpellation de garde à vue, y compris de mineurs. Donc nous sommes intraitables, nous continuerons de l'être. Ça s'est passé hors de l'école, à plusieurs centaines de mètres. Je ne sais pas si l'école est liée à cela. J'attends d'avoir là aussi, comme je le disais hier, la vérité des faits, y compris sur Viry. Ce que je veux d'abord ici redire, c'est que l'école doit rester un sanctuaire pour nos enfants. Pour nos enfants, pour leurs familles, pour les enseignants.
Voilà, l'école doit rester un sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Franck de Dieu?
Un sanctuaire, ça veut dire qu'il y a c'est un endroit qui est celui de la République.
Oui.
Qui est un lieu, qui est un ciment national, social, où les gens apprennent, et plus généralement, apprennent à vivre ensemble dans une société pacifiée. Ça suppose qu'il y ait des bornes et qu'il y ait aussi des interdits stricts, et notamment la violence. Au-delà de cela, on en parlera avec Véronique sur les réseaux sociaux. Je pense que nous, on a fait des enquêtes à Marianne. On a notamment donné la parole aux lecteurs pour leur demander, mais vous, recréer ce sentiment républicain d'appartenance à quelque chose qui nous est commun, avoir un destin commun et avoir envie de le porter ensemble, qu'est-ce que vous proposez? On a fait des propositions, on les a entendues. L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs est un sujet qui apparaît très rapidement. Alors, sur le plan technique, j'avoue que je passerai la parole à Véronique qui nous éclairera là-dessus. Il faut savoir qu'en Floride, il n'y a pas si longtemps, vous avez une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 14 ans. Et comme il s'agit de collégiens, pour les 14-15 ans, vous avez une autorisation parentale qui est requise.
Comment vous faites respecter ça?
Alors, juste pour terminer, un chiffre tout de même qui prend la mesure de ce sujet, ce n'est pas simplement un vecteur de violence, hein, c'est pas que ça, c'est aussi un vecteur de savoir, mais c'est quand même aussi, je dirais, une forme d'attention à l'égard des écrans. Vous avez une étude de Pew Research qui disait qu'il y a un adolescent sur six qui est presque constamment sur les réseaux sociaux. Donc vous avez, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, vous avez, je dirais, un rapport à la lecture, à la raison, au raisonnement, au savoir, qui est modifié, mais modifié, pardon d'employer ce mot un peu cuistre, anthropologiquement. C'est-à-dire que vous avez quand même un rapport à l'autre qui est modifié par le prolongement de son bras, qui est le smartphone. Et dans cette génération-là, ça pose un vrai sujet. Et je crois que la notion d'interdiction doit être posée calmement, mais fermement.
Alors, il y a la réflexion sociétale, hein, ce que vous décrivez quand vous parlez de la lecture, etc. Sans doute un constat sur lequel à peu près tout le monde peut être d'accord. Mais il y a comment, aujourd'hui, maintenant qu'on en est là, je ne sais pas si c'est revenir en arrière, mais comment on régule tout ça et en fait, on se heurte à ça tout le temps. Véronique Ressoult, alors, juste l'interdiction dont on parlait, Franck de Dieu, 14 ans.
Normalement, vous
comment on impose ça?
Alors, si c'est un bouton.
On n'est pas un gendarme derrière chaque.
Non, souvent, c'est un bouton qui dit.
Oui, mais on utilise l'ordinateur d'un copain, voilà. D'un adulte.
Vous avez des astuces aussi qui peuvent être la carte d'identité. Vous avez certains qui proposent qu'il y ait une carte bancaire. Qui soit pas débité, mais avoir une carte bancaire à 9 ans ou 10 ans, a priori, c'est celle de vos parents, donc c'est quand même une discussion. Vous avez aussi la réalité des reconnaissances faciales, qui pourrait être aussi une solution. En gros, plus on pourra compliquer la vie des jeunes pour s'inscrire, mieux ça fonctionnera, mais ils contourneront toujours, et la réalité de l'interdiction, elle est quasiment impossible, parce que déjà, aujourd'hui, normalement, un enfant n'a pas à s'inscrire sur Instagram, et il y arrive... Pour autant, il n'a pas à être sur Snapchat et il y arrive pour autant. Donc en fait, compter sur la réalité de parce que c'est interdit, c'est quasiment impossible. Compter sur les parents, c'est aussi difficile parce que c'est pas si simple que ça. Tous les témoignages et toutes les études qui sont faites montrent bien que interdire à son enfant d'aller sur les réseaux sociaux, lui interdire son téléphone, même tout simplement lui prendre son téléphone le soir quand il va se coucher en lui disant quand tu dors, tu n'as pas besoin de ton téléphone. Donc au moins le couper des réseaux à ce moment-là, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de parents qui vous disent, ça déclenche des cris, des crises.
Bien sûr,
ils ont l'impression que on les coupe de tout. Donc c'est compliqué. Donc ça commence sans doute une éducation très tôt. L'éducation, elle va être sur les sources, sur comment ça fonctionne. Et puis on a une notion qui nous échappe un peu parce qu'on est un tout petit peu plus vieux que les jeunes dont on parle, mais la notion d'extimité qui est aujourd'hui, on met en scène son intimité et on est persuadé qu'on la maîtrise. Donc quand on est sur Instagram et qu'on fait des selfies et qu'on raconte une vie formidable, c'est compliqué après, quand vos parents le font, quand les adultes le font, d'expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas le faire. Et donc, on a une vision déformée de la réalité.
Extimité, on va y revenir. Et Béatrice Mathieu, vous nous direz aussi votre regard sur tout ça après le fil info de 20h11. Stéphane Milhomme.
Un jeune de 17 ans est en garde à vue dans l'Essonne. Il est interrogé dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un collégien de 15 ans à Viry-Châtillon. La victime est morte cet après-midi après avoir été passée à tabac. Cet après-midi, Nicole Belloubet se disait profondément bouleversée par le décès de ce jeune. La ministre de l'Éducation nationale était au collège Les Sablons où une cellule psychologique est désormais en place. Marine Le Pen et le Rassemblement national dénoncent une folie meurtrière après ce drame et chez les Républicains, Éric Ciotti condamne une explosion de la violence. Une nouvelle frappe meurtrière russe en Ukraine. Le gouverneur annonce la mort d'au moins 3 personnes avec une douzaine de blessés sur la zone de Zaporijja. L'Ukraine assure de son côté avoir détruit au moins 6 avions russes sur la base aérienne de la région de Rostov dans le sud-ouest de la Russie. C'est la première vague des départs pour les vacances de Pâques. Ce vendredi était d'ailleurs classé orange en Ile-de-France. Ça reste vert dans le sens des retours. Ça concerne les élèves de la zone C, Toulouse, Montpellier, Paris, Créteil ou encore Versailles.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Franck de Dieu est là pour Marianne, Béatrice Mathieu pour l'Express, Véronique Reissoult pour Backbone Consulting, et on parle donc des réseaux sociaux et de cette violence. Les réseaux sociaux, on a commencé à l'évoquer, la difficulté de contrôler. Il y a quelque chose d'un contexte sociétal. Béatrice Mathieu, quel regard vous avez, vous, ce soir là-dessus?
Alors, deux points par rapport à ce qui a déjà été dit. Premièrement, effectivement, école, un sanctuaire, évidemment. Le problème, c'est que ces deux agressions n'ont pas eu lieu dans l'enceinte de l'école, mais aux abords de l'école. Donc, ça pose aussi un problème de sécurité aux abords de l'école et même sur le chemin pour rentrer chez soi. Et on sait, on ne va pas mettre des caméras partout ou des agents de police derrière chaque collégien qui rentre chez soi.
Les syndicats, je complète simplement, les syndicats d'enseignants, par exemple, et de tout le corps enseignant et d'éducation qui était pointé du doigt par certains aujourd'hui, disaient, mais avec les moyens qu'on a perdus, comment voulez-vous? On veut bien faire de la surveillance à l'extérieur, juste devant l'école, mais encore faut-il avoir les moyens d'eux.
Voilà, par ailleurs. La deuxième chose qui est sur... on est, de façon générale, ça n'est pas qu'à l'école, mais on voit bien une multiplication de ces actes ultra-violents, hyper-violents, ce qui, comme si une forme de surmoi dans la société avait disparu, et donc on laissait libre cours à ces sortes de pulsions collectives qu'on a du mal à contrôler. Donc c'est un problème sociétal qui est évidemment amplifié par ces problèmes par ces réseaux sociaux, où ils trouvent là une caisse de résonance incroyable. Moi, ce qui m'interroge, et quand on regarde le côté addictif de certains réseaux, on peut parler de TikTok où les jeunes sont très, effectivement très très présents. C'est, alors, je suis pas du tout une fan du modèle chinois, loin s'en faut, mais ce qui interroge quand même, c'est que en Chine, le gouvernement chinois a limité à une heure d'exposition sur TikTok les jeunes de moins de 18 ans. C'est le gouvernement chinois qui le...
Comment ils appliquent ça? Vous savez, Véronique?
Vous pouvez très bien fermer un réseau pendant un certain nombre d'heures. Vous pouvez contrôler la réalité là, mais ça s'appelle contrôler et après c'est
autre
chose.
Ça montre la dangerosité. Si la Chine fait ça, c'est qu'ils savent très bien, le gouvernement chinois sait très bien la dangerosité de l'algorithme TikTok. Et fait ça pour protéger sa jeunesse. Ouais. Ce qui montre que nous...
Pardon, mais pour être clair, c'est une heure où c'est...
Limité, c'est-à-dire que pour les jeunes...
Oui, mais globalement, sur l'ensemble de la journée, non. Chaque personne... Comment vous contrôlez, comment vous bloquez la consultation.
Je pense qu'eux savent très bien le faire, sur les...
En Chine, vous avez des points en fonction de votre comportement, du nombre d'étoiles, vous pouvez vous déplacer ou pas vous déplacer en fonction de votre position sociale. Donc oui, ils suivent, mais c'est la Chine.
Encore une fois, c'est pas un modèle à suivre.
C'est pas ma question, c'est de savoir comment on fait.
Techniquement, c'est très faisable. Et je pense que limiter.
C'est plus faisable de faire ça que de demander aux plateformes de réguler, de modérer et de dire il faut retirer les propos de cyberharcèlement ou les messages agressifs entre jeunes. Ça, c'est impossible.
Parce que par ailleurs, effectivement,
sur tout ce qu'on a aujourd'hui fait sur le cyberharcèlement, et notamment quand il y a eu preuve de cyberharcèlement, on dit aux cyberharceleurs, vous allez être banni pendant 6 mois, et pendant 6 mois, vous n'aurez pas le droit, vos comptes sont fermés, vous n'aurez pas le droit d'en créer d'autres, et c'est aux plateformes de vérifier que vous n'en créez pas d'autres. Donc là, le contrôle est inopérant, et d'autant plus que c'est très facile, c'est fait en 30 secondes, de créer un faux compte sous un nom X, Y ou Z. Et il y a un problème là de droit et de droit européen, qui est que dans le droit européen, il y a l'anonymat en fait en ligne sur Internet qui est inscrit dans le droit européen. Donc on voit bien que toutes les tentatives qui ont été faites pour imposer une carte d'identité, etc., se bute sur la constitutionnalité du droit européen qui est l'anonymat en ligne.
Véronique Reissoult, quand on échangeait pour préparer cette émission, aujourd'hui vous m'avez dit la surveillance locale, c'est quelque chose qui s'envisage. Expliquez-nous ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que si on demande aux plateformes de retirer avec des logiques d'algorithme, c'est-à-dire qu'on va poser une question qui est quels sont les mots qui sont interdits ou quels sont les critères qui pourraient être retirés. Si vous êtes sur de la diffamation, ça peut s'identifier et donc il y a des actions. Si c'est des propos racistes, des incitations à la haine ou au meurtre, là aussi ce sont des mots qui sont facilement identifiables. Mais si c'est des insultes entre deux groupes, si c'est des gens qui poussent et qui insultent une jeune femme par exemple sur sa couleur,
son poids,
sa couleur de cheveux,
de façon répétée,
comment voulez-vous qu'une plateforme puisse le faire? En revanche, localement, vous pouvez avoir des ambassadeurs ou des brigades, ça dépend, dans certains pays il y a ça, qui connaissent la situation, qui surveillent, qui connaissent chaque cas. Si la jeune femme va les voir, va pouvoir défendre.
Par exemple, suite à un signalement, par exemple,
exactement,
suite à une condamnation.
Et par exemple, la fameuse jeune fille
ou une plainte déposée par quelqu'un.
Ou quelqu'un qui a identifié une vidéo au moment de l'affaire Lindsay, par exemple, la vidéo qui circulait, il y avait beaucoup de gens. La petite jeune femme jeune fille qui a été harcelée, maltraitée et qui a fini par se suicider, les vidéos qui circulaient, localement, les gens les avaient identifiées et les avaient signalées. En soi, pour la plateforme, si vous avez un signalement et si vous avez des gens qui sont reconnus comme étant ambassadeurs, ils les retireraient, parce qu'il ne faut pas croire, les plateformes ne sont pas que dans une logique où ça ne les intéresse pas de réguler, c'est que c'est compliqué de réguler. Donc si on leur signale, ils vont retirer. D'ailleurs, le 3018, qui devrait être un numéro qu'on devrait répéter à longueur de journée sur le cyberharcèlement, qui est un lieu où vous pouvez être aidé, accompagné et qui signale, quand eux, ils signalent aux plateformes, les messages sont tout de suite retirés. La complexité, c'est de comprendre ce qui se passe localement. C'est pour ça que des solutions locales sont certainement une des clés intéressantes à envisager, en se disant que voilà, vous avez des ambassadeurs, vous avez des gens qui vont pouvoir...
Vous dites que c'est appliqué par endroit ou ça,
alors en Finlande, ils l'utilisent. Ils ont pas mal de pratiques dans cette logique-là et a priori, ça porte plutôt ses fruits. Et puis, vous avez des plateformes elles-mêmes qui ont tenté des logiques d'intelligence collective, à commencer par Reddit, par exemple. Ce sont les internautes eux-mêmes qui essayent de réguler et qui sont dans une logique d'appréciation sur des valeurs qui ont été préannoncées et qui sont plus faciles que simplement un algorithme qui dirait tel mot fait que ce message doit être retiré. C'est quasiment impossible.
Mmh. On a une classe politique qui connaît un peu ces questions-là ou une partie du problème vient aussi du fait que... Et on va pas jeter la pierre, hein, mais je veux dire, globalement, tout le monde est un peu perdu là-dedans, mais notamment, on n'identifie pas forcément, mais je sais pas vous, dans les différents partis politiques, des interlocuteurs, des élus qui sont très mobilisés et très au fait de tout ça.
Oui, il y en a quelques-uns, mais franchement,
vous
peu.
Vous qui les suivez.
Assez peu, et parce qu'ils sont confrontés aux problématiques de droit aussi. Et puis, on voit bien la Commission européenne, quand Monsieur Breton pose le DMA, DSA, il y a des parties dans ce texte qui sont intéressants. Le plus intéressant est la volonté commune de dire il faut faire quelque chose.
Il faut expliquer voilà. DMA, DSA.
c'est une réglementation qui a été proposée pour réguler, pour demander aux plateformes d'être plus responsables, d'être plus transparentes sur leurs actions et qui peut les sanctionner s'ils ne respectent pas le droit. Mais la réalité, c'est que c'est plus complexe que simplement leur demander d'appliquer ces règles. Alors, il y a quelques éléments qui sont intéressants, en particulier sur la publicité mensongère et sur les fausses informations. Mais c'est un tout petit bout. Le reste, c'est assez utopique.
Pour conclure, Franck Dieu.
Oui, c'est vrai que les hommes politiques, ou les femmes politiques, on les entend davantage réagir à ces faits divers, que proposer des solutions très concrètes, très techniques. Et moi, je regrette que aujourd'hui, on est dans un système, une ambiance générale où tout fait divers, hein, à l'image de Crépole, est le prétexte pour susciter des divisions idéologiques, des fractures politiques, où je dirais, dans le commentariat, chacun y voit midi à sa porte. Donc, vous avez Sandrine Rousseau qui dit, elle y voit, je dirais, une lecture un peu féministe. Elle dit, cette agression est sexiste, on doit s'habiller comme on veut, ce en quoi elle a tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez tout fait divers aujourd'hui. Alors, quand il a une dimension très dramatique, comme quand il a une dimension aux aspects très futiles, prend systématiquement un caractère de fragmentation idéologique qui divise la société. C'est pour ça votre première question sur l'école, c'est quand même peut-être un endroit qui est un sanctuaire. S'il parle de sanctuaire, c'est parce que peut-être que justement là, il ne doit pas y avoir de sujet à fracture identitaire, à guerre identitaire, qui est en train d'émerger et qui s'appuie sur n'importe quoi. de tout fait divers. Et ça, je dois avouer que c'est quand même très dangereux pour la cohésion nationale.
Allez, on va refermer cette première grande page désinformée. On parlera dans un instant des prix planchers, rien à voir. D'abord le fil info, 20h22, Stéphane Milhomme.
Israël fait ce que les États-Unis ont demandé concernant l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza. C'est le constat de Joe Biden 24 heures après avoir téléphoné à Benjamin Netanyahou. Mais devant les journalistes, le président américain n'a pas précisé s'il avait menacé de cesser la livraison d'aide militaire à Israël. Un jeune de 17 ans est donc en garde à vue après le tabassage mortel d'un jeune de 15 ans devant le collège Les Sablons de Viry-Châtillon. La victime est morte cet après-midi à l'hôpital. La réaction sur France Info du maire de cette ville de 30 000 habitants dans l'Essonne, Jean-Marie Villain, parle d'un drame absolu. Un rassemblement interdit devant une maison de Gabriel Attal en Haute-Corse. Décision de la préfecture, elle court d'ailleurs jusqu'à dimanche. Les militants d'un parti indépendantiste, Coré Infronte, entendent dénoncer l'arrestation de l'un des leurs, Stéphane Horry, arrêté fin mars à la demande du parquet antiterroriste. La France compte désormais 10 nouveaux milliardaires. Cette année, c'est le classement annuel du magazine Forbes. La plupart de ces fortunés sont d'ailleurs des héritiers. Ça fait un total de 53 milliardaires. Bernard Arnault reste l'homme le plus riche au monde. La femme la plus riche au monde, c'est Françoise Bettencourt-Meyer, l'héritière du groupe L'Oréal.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
À tout en compagnie ce soir de Béatrice Mathieu, l'Express, Franck de Dieu, Marianne, Véronique Ressoul de Backbone Consulting, et on accueille Jean-Marie Serroni, l'agroéconomiste indépendant, membre de l'Académie d'agriculture. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On a deux experts sur ce sujet, on a vous, et puis on a Franck de Dieu à côté de vous, économiste.
Moi, ça m'intéresse d'avoir une idée là-dessus, mais je ne suis pas du tout expert.
Soyez pas modeste, Franck de Dieu. Alors, des prix planchers pour les agriculteurs, en clair, un revenu garanti, l'équivalent de 2 SMIC, nous dit-on. Rien dit que l'idée survivra au passage du Sénat, mais c'est passé en tout cas hier soir à l'Assemblée, dans une sorte de coup de théâtre, texte présenté par les écologistes, soutenu, voté par la gauche, contre l'avis de la Macronie, en l'absence des LR et avec un RN qui s'abstient. C'est un coup politique pour vous ou une réelle réponse aux questions de revenus des agriculteurs? Je vous laisse réfléchir, mais on va écouter. Non, je vous laisse répondre peut-être avant d'écouter Sandra Regol. Jean-Marie Serroni.
Pour moi, c'est un double coup politique. D'une part, le fait de faire passer un texte de loi que LFI avait essayé de faire passer au mois de novembre, je crois, l'année dernière, et le premier article de leur loi dans leur niche parlementaire, qui était les prix planchers, avait été assez largement adopté, et ensuite, quand l'ensemble de la loi avait été passée, elle avait été retoquée, mais il y avait à l'époque 330 députés dans l'Assemblée. C'est-à-dire qu'entre le premier élément et quand ils ont fait le vote final, la Macronie s'était mobilisée, ils avaient rassemblé tous les députés qu'ils pouvaient trouver pour venir voter. Là, hier, ils étaient 150, et donc les LR sont partis, ou il y avait un ou deux, je crois, puis ils sont partis, ils n'ont pas pris part au vote. Le Rassemblement national s'est abstenu, alors que dans le vote sur la même chose, ils avaient voté ils avaient voté pour ou contre.
Ils sont pour depuis 10 ans, et on en parle.
Voilà, ils avaient voté pour. Voilà. Donc là, c'est un coup, parce que ça peut pas prospérer, je crois pas. Alors, par contre, ça peut faire prospérer l'idée. Mais le vecteur parlementaire, je crois, ne peut pas aboutir. Et c'est un deuxième coup politique, parce qu'au salon de l'agriculture, rappelons-nous, le président de la République, dans le fameux samedi, là, quand il était acculé un peu par tous les bouts, avait dit, on va proposer des prix planchers. Et moi, je n'y étais pas, mais j'ai vu la vidéo. Le ministre de l'Agriculture, qui était à côté, se décomposait au fur et à mesure des propos du président.
Alors, vous dites Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que lui. Écoutez Sandra Regol, qui fait un petit récapitulatif de tout ça. Donc, chez les écologistes, Sandra Regol, qui était l'invitée de Frédéric Carbone ce midi sur France Info.
Non seulement Emmanuel Macron, mais Agnès Pannier-Runacher elle-même avait donné la définition de ce que sont ces prix planchers. Mais c'est pas les seuls. Même Éric Ciotti avait dit il faut assurer un minimum d'un salaire de 1500 euros à chaque agriculteur. Alors là, vous voyez, il part encore plus loin. Il est carrément sur des subventions, des espèces d'aides à donner à chaque producteur, productrice. Bref. Tout le monde y allait de sa proposition. Le seul problème, c'est qu'au moment où on dit « voilà un dispositif, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» pour tomber d'accord, et ben tout le monde avait poney piscine.
Avant, poney piscine, hein, vous avez bien entendu. Avant de poursuivre sur ces aspects politiques, faut qu'on explique à nos auditeurs comment ça pourrait marcher, Jean-Marie Cerroni. Comment on fixe ce prix plancher? Comment on fixe le coût de production? Il y a tellement de variabilité de saison, de maturité pour les fruits, par exemple. Comment
on Alors, ça pose déjà une première question. Votre interlocutrice parlait de subventions en cas d'espèce, c'est absolument pas des subventions.
Non, elle évoquait la piste envisagée par Éric Ciotti.
Deuxième chose, on confond prix et revenu. Hein, assurer un revenu et garantir un prix, c'est pas là du tout la même chose. Donc là, on parle de
alors
prix.
Alors on est sur le prix, on reviendra au revenu après.
On est sur
après.
Le prix. Donc je vais vous expliquer pourquoi, dans l'état actuel, ça peut pas marcher.
Ah, comme ça, c'est clair.
Parce qu'on a connu ça il y a 30 ans. J'ai une longue expérience, à l'époque j'étais sur le terrain, avec la politique agricole commune, ancienne version. Les prix étaient, il y avait des prix objectifs, c'est pas vraiment des prix planchers, mais des prix objectifs qui étaient déterminés tous les ans à Bruxelles, ce qu'on appelait les marathons, où ils y passaient des nuits à s'engueuler, les ministres, etc. Tu me montes la banane, je te baisse le lait, enfin bon, il y a des tractations, et ça donnait un prix auquel les agriculteurs étaient à peu près, pouvaient être payés. Mais on avait à l'époque des barrières aux frontières où il y avait des taxes à l'importation correspondant à ce prix qui était fixé et des exportateurs qui voulaient vendre sur le marché mondial ces prix intérieurs européens étant en général plus élevés que le marché mondial, touchaient des subventions pour exporter. Donc, s'il n'y a pas de protection aux frontières, et quand on discute, j'ai discuté beaucoup avec Aurélie Trouvé, la députée LFI qui est à l'origine de la première loi, elle me dit « mais oui ». On se connaît, parce qu'elle était à l'académie. Elle me dit, mais oui, t'as raison. Ça ne peut pas marcher si on ne remet pas des protections aux frontières ou si on ne rehausse pas les éléments de protection qui restent, parce qu'il reste quand même des droits de douane. On pourrait les rehausser, mais ce serait quasiment impossible au niveau européen. Et puis, le troisième élément qu'il y avait à l'époque, c'est que la puissance publique intervenait sur les marchés. Quand les prix étaient trop bas, elle achetait pour faire monter les prix. Et on avait des stocks.
On avait des surplus, c'est-à-dire qu'il y a quand même une.
Voilà, on avait des stocks de lait, des stocks de beurre, des stocks de viande. Et quand les prix étaient au-dessus de ces prix, l'État empêchait que ces prix montent en revendant. Et ce qui est bien que les agriculteurs n'avaient plus du tout de signaux du marché pour guider leur choix, puisque les prix étaient garantis. Et qu'est-ce que ça faisait? Eh ben, ils allaient là où ça gagnait de l'argent, indépendamment des débouchés. Et ça fait ce que vous dites, des surplus de beurre qu'on vendait ou qu'on donnait aux Russes en fin d'année. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas une mauvaise idée, on peut peut-être en revenir dans certains cas, mais on peut pas le mettre comme ça sans qu'il y ait des protections aux frontières. Et aujourd'hui, il n'est pas véritablement dans l'idée de mettre des protections aux frontières, d'autant que nous sommes des grands exportateurs.
Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'il faut que ça se pense à un niveau plus large, éventuellement européen? On va continuer à se poser toutes ces questions. Après le point sur l'info, puisqu'il est 20h30. Bonsoir Édouard Marguet.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Pour la ministre de l'Éducation, la nation tout entière est endeuillée par la mort d'un collégien à Viry-Châtillon en Essonne, le jeune de 15 ans, qui est mort des suites de ses graves blessures, frappé violemment hier en sortant de son établissement scolaire. Le procureur annonce ce soir qu'un suspect a été interpellé, un mineur de 17 ans qui est en ce moment même en garde à vue. Dans l'affaire similaire à Montpellier, dans l'Hérault, des aveux après l'agression violente d'une collégienne à la sortie, elle aussi, de son établissement. Trois adolescents qui reconnaissent avoir frappé violemment la jeune Samara. Le parquet n'évoque aucune dimension religieuse dans ce dossier. Déferlement de violence qui aurait son origine dans les invectives entre les élèves sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, Emmanuel Macron appelle à ce que l'école reste un sanctuaire. Le président constate et dénonce une forme de violence désinhibée chez nos adolescents. Le chef de l'État, qui a eu cette phrase pendant une visite d'une école à Paris, il impose une nouvelle réforme de la formation des professeurs des écoles. Il propose de ramener le concours à Bac+3 au lieu de Bac+5, une réforme qu'il envisage comme un remède à la grave crise de recrutement dans l'éducation nationale. Pour le chef du Hezbollah libanais, le bombardement du consulat iranien à Damas en Syrie est un tournant au Proche-Orient depuis les attentats du Hamas le 7 octobre en Israël. Il estime que la riposte de Téhéran à ces bombardements attribués à Israël est inéluctable, selon donc le chef de ce mouvement pro-Iran. De grandes institutions culturelles vont devoir faire avec moins, l'Opéra de Paris, la Comédie Française ou encore le Musée du Louvre, budget raboté de plusieurs millions d'euros dans le cadre des économies, 10 milliards d'euros dès cette année décidées par le gouvernement. Deux matchs de football à suivre ce soir. Les joueuses de l'équipe de France reçoivent l'Irlande. Coup d'envoi 21h10, qualification pour l'Euro. Et ce sera également le début de la 28e journée de Ligue 1. Le LOSC Lille reçoit Marseille dans une demi-heure.
France Info.
20h, 21h. France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Il y a la moitié de la production qui est...
On est avec Béatrice Mathieu à l'Express. Tout le monde est en grande conversation sur ces prix planchers. Franck Dedieu est là pour Marianne, Véronique Reissoul pour Backbone Consulting et l'agro-économiste Jean-Marie Céroni. Véronique Reissoul, sur les réseaux sociaux, dites-nous en deux mots, est-ce que quelqu'un y comprend quelque chose à ces prix planchers?
En deux mots, il y a toujours le soutien aux agriculteurs, mais globalement, ces notions de prix plancher, de revenu minimum, et aussi il y a la notion de réciprocité et d'import qui vient se... Voilà, dans les conversations, donc les Français ont besoin des informés.
C'est-à-dire, on parle
de vos conseils.
Du revenu, ça c'est...
Le revenu minimum, ça c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, mais la complexité de la compréhension sur comment est-ce que ça se joue avec les prix planchers, comment est-ce qu'on fait à l'import, comment est-ce qu'on fait pour protéger les frontières, on voit bien que les conversations, là, les Français cherchent un peu à comprendre où les politiques veulent aller.
On a bien compris avec Jean-Marie Céroni que pour vous, c'est pas faisable.
Dans l'État, c'est pas faisable. Avec en plus dans la proposition là de cette nuit, il y a le fait que s'ils se mettent pas d'accord, c'est l'État qui fixe le prix.
Conférence publique de filière.
Oui, mais et si ça marche
et
pas
Et si ça marche l'État, pas, c'est l'État derrière, ministère de l'économie et de l'agriculture.
Mais on va pas rentrer dans des prix administrés et ils se mettront jamais d'accord. Dès que ce sera un peu compliqué, ils se mettront jamais d'accord en attendant l'État. Et c'est pas l'État qui va fixer les
tous
prix.
Tous les 4 mois, c'est-à-dire qu'en tous les quatre mois, en fonction de l'évolution des coûts de production, les prix planchers. C'est typique l'idée d'une bonne idée où on dit ah là, ces pauvres agriculteurs. Évidemment, beaucoup d'entre eux ont des revenus assez faibles et on est en train de mettre une usine à gaz qui effectivement ne marchera absolument pas parce que le fonctionnement.
Alors, est-ce que ça veut dire que si on veut essayer de régler cette question des revenus, ça se joue à nouveau, on revient aux marges. En fait, c'est ça. Il y a un prix et après il y a le prix plancher, le prix lui-même. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Franck de Dieu?
Moi, j'ai pas peur de la notion de prix administré. On a eu des prix administrés, ça a été, et on n'était pas en Union soviétique. Faut arrêter de croire que parce que tout n'est pas lié à l'offre et la demande dans des produits qui touchent à l'intérêt général, à l'intérêt national et à la souveraineté alimentaire, il peut y avoir des prix administrés.
Donc vous dites tous les produits de base,
Après, je ne vais pas vous faire la liste.
Essayons.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour moi quelque chose qui est rédhibitoire.
D'accord.
En revanche, là où je suis d'accord avec M. Céroni, c'est qu'il y a une forme de trou dans la raquette dans cette histoire. C'est-à-dire que vous partez d'une bonne intention. Effectivement, vous avez raison, Véronique, les gens ont du mal à comprendre la définition de revenu, de coût, de revient d'un produit agricole. En revanche, ce qu'ils ont bien compris, c'est que dans la chaîne, l'agriculteur, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, celui qui se fait avoir, c'est l'agriculteur. Et donc, celui qu'il faut protéger, c'est l'agriculteur, bien sûr. Et évidemment, le consommateur qui surpaye des marges qui sont injustement réparties.
Oui, mais le consommateur, ce qu'il a bien compris aussi, c'est quand il va au supermarché, et qu'il a à choisir entre des fraises espagnoles qui sont deux fois moins chères que des fraises françaises, il prend des fraises espagnoles.
Et encore, les fraises, ça va parce qu'il y a une différence de goût.
Ou des cerises.
Vous prenez le concombre, il n'y a aucune différence de goût. Vous achetez des fraises françaises, en général, elles sont quand même meilleures.
Si je dis qu'il y a un trou dans la raquette, c'est pas pour dire que cette proposition est merveilleuse, c'est que cette question-là, vous avez tout à fait raison, pour dire qu'il y a une différence de prix. Cette question-là, elle pose finalement une question systémique économique. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut garantir des prix, des marges, des revenus dans un cadre qui est ouvert aux quatre vents de la concurrence. Et là, effectivement, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que vous aurez une augmentation des importations. Vous avez de l'agroalimentaire.
France, ça n'est pas ouvert aux quatre vents de la concurrence. C'est ouvert à l'Union européenne.
Qui va acheter des produits venant d'ailleurs. Vous avez le poulet polonais qui est deux fois moins cher que le poulet à Rungis. Donc, à partir de là, je termine.
On va laisser réagir Jean-Marie Sirugue.
Je termine simplement. À partir de là, à partir du moment où vous dites il y a des bonnes intentions, il y a une nécessité politique et je dirais humaine de garantir des prix planchers. Mais nous sommes dans un cadre économique qui ne le permet pas, et bien à ce moment-là, prenons des décisions pour le permettre. Ça suppose, et là je vous rejoins, et bien tout simplement d'avoir des barrières douanières, de faire en sorte que quand vous importez un poulet du Brésil qui est trois fois moins cher qu'à Rungis, et bien vous avez des taxes de manière à ce qu'il y ait une incitation à choisir en priorité des poulets français.
Donc, voilà. Franck, vous voulez remettre en place des barrières douanières à l'intérieur de l'Union européenne.
Alors,
à l'intérieur de l'Union européenne.
J'ai parlé du Brésil.
Du poulet brésilien, mais là, je vous parle des fraises espagnoles.
Il y a une question qui se pose, effectivement, à partir du moment où vous avez des concurrences intra-européennes sur des bases d'exploitation sociale, les fraises en Espagne, ça se passe quand même pas très bien sur le plan social. Il faut quand même l'avouer. Ça relève un peu de quelque chose qui est indigne. Bon, à partir du moment où vous avez de concurrence sociale au sein même de l'Union européenne, vous pouvez imaginer quelque chose qui, rattrape le coup. Alors, effectivement, ça suppose que le Parlement européen soit d'accord.
Réponse de Jean-Marie Sironi, parce que c'est la quadrature du cercle, effectivement.
Oui, c'est la quadrature du cercle. Il faut je pense qu'on va y arriver au niveau européen. Ce que vous évoquez là, c'est les clauses miroirs que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que ce qui est interdit chez nous, on n'accepte pas d'acheter, d'importer des produits qui utilisent ces techniques interdites. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un élément central. Mais là où on se trompe, c'est qu'on imagine que les agriculteurs ne vivent pas bien. Mais c'est faux. C'est faux.
Alors, les agriculteurs, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, il y en a certains qui vivent vraiment pas bien, on est d'accord.
Le prélèvement moyen d'un agriculteur en France, par personne, c'est 22, 23 000 euros. Donc, c'est pas faramineux, c'est du net. C'est quand même, c'est pas la misère. Le gros problème qu'on a...
C'est une immense disparité, d'accord.
Le gros problème qu'on a, c'est qu'on a d'énormes disparités dans chacune des productions. Évidemment, un producteur de vin haut de gamme gagne plus qu'un producteur de moutons, c'est clair. Mais les écarts, et je suis bien chaud parce que j'ai fait une conférence là-dessus ce matin, vous prenez vous enlevez les 25% qui gagnent le plus, les 25% qui gagnent le moins, donc ça fait la moitié, vous avez des coûts de production, des coûts de revient intégrant le travail, ce qu'on évoque avec les prix planchers, qui varient entre 1 à 3 à 1 à 4 entre les productions. Donc, si vous mettez un prix plancher relativement élevé pour que les trois quarts des gens s'en sortent, vous créez une rente de situation phénoménale pour un quart ou 30% des agriculteurs. Et donc, ils vont baisser en compétitivité. Donc, cette notion, le problème qu'on a, c'est ces écarts de production. Et du reste, dans les manifestations passées, les émois médiatiques des premiers jours, vous vous êtes rendu compte que la question du revenu n'était pas central dans les débats. C'est pour ça que j'étais souvent invité, j'étais le premier à le dire. C'était pas le problème est beaucoup plus grave que ça. C'est les conditions de production, c'est la reconnaissance par la société. Et on doit accompagner davantage les agriculteurs, notamment ceux qui ont des difficultés techniques, parce que le métier est plus difficile qu'avant. Mais globalement, la moyenne, et notamment depuis qu'on n'a plus les prix administrés, le revenu moyen des agriculteurs augmente régulièrement, avec des variations d'une année à l'autre, parce qu'il n'y a plus la sécurité de l'État, mais globalement, ils vivent mieux qu'il y a 20 ans. Il n'y a aucune discussion quand on regarde les chiffres.
Jean-Marie Sironi, on vous garde quelques instants encore si vous êtes d'accord. Après le fil info, on évoquera quand même l'aspect politique. Moi, je voudrais qu'on essaie de comprendre pourquoi ils ont tous eu la trouille. Entre ceux qui avaient poney et piscine, comme dit Sandra Regol, ceux qui se sont abstenus, il y a quelque chose qui est intéressant quand même à comprendre. D'abord le fil info, 20h41, Stéphane Milhomme.
Le thermomètre flirte avec les 30 degrés dès aujourd'hui en Gironde, 29 degrés par exemple à Bordeaux, c'est un record pour un 5 avril. Mais nous ne sommes qu'au printemps et Météo France met en garde contre une neige humide dans les Alpes et les Pyrénées, elle peut déclencher des avalanches. Après l'agression mortelle du collégien à Viry-Châtillon, un suspect de 17 ans est interrogé par la police depuis quelques heures. À Montpellier, trois jeunes de 14 et 15 ans reconnaissent l'agression de la jeune Samara et le plus âgé de 15 ans doit donc être incarcéré. Le détenu suspecté d'avoir assassiné Yvan Colonna, entendu pendant 1h30 cet après-midi par un juge, fin février, cet homme de 37 ans était revenu sur sa version des faits. Fiché S, il assurait avoir tué l'indépendantiste corse sur commande de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et puis en Finlande, les syndicats mettent fin à une grève de plus d'un mois. 7000 salariés du transport, la logistique, l'énergie protestaient contre un projet du gouvernement d'assouplir le code du travail, restreindre le droit de grève et réduire les allocations chômage. Grève terminée aujourd'hui, mais les syndicats attendent une réponse du gouvernement.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Franck de Dieu, de Marianne, Béatrice Mathieu de l'Express, de Véronique Reissoult de Backbone Consulting et l'agroéconomiste Jean-Marie Serroni. Béatrice Mathieu, notamment sur cette question que je posais juste avant l'interruption, là, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils avaient tous poney et piscine, comme dit Sandra Regol. Tout le monde était plus ou moins d'accord. Et puis, c'est quoi? C'est la complexité? C'est la trouille du lobbying des syndicats type FNSEA, c'est quoi?
Je pense que d'une part, ils n'étaient pas tous d'accord. Je pense que c'est un camouflet pour le président de la République qui s'était avancé. Et on a bien vu qu'après cette avancée au salon de l'agriculture, toutes les choses se sont effilochées. Et là où ça a été très bien dit, c'est-à-dire qu'une grande partie de la classe politique sait très bien, parce qu'on leur a quand même suffisamment expliqué, que... Et là où Franck a raison, c'est-à-dire que si on fait les prix planchers sans changer totalement le système, ça ne marche pas, c'est inopérant et c'est juste du blabla politique, un brin populiste. Donc cette loi aura un avenir assez sombre parce que c'est totalement inapplicable. Et Il y a deux solutions aujourd'hui. Soit on change totalement le système, mais c'est une remise en cause totalement totale du fonctionnement de l'Union européenne.
Et ça a peu de chance de.
Je sais pas si on
d'arriver.
Dit quand Franck disait effectivement si en reprenant le cas des fraises espagnoles, on trouvera des solutions pour. C'est quoi ces solutions complètes si on ne met pas de barrières douanières aux frontières de l'Europe?
Avant, on avait quand même un truc qui s'appelait la dévaluation. Donc vous avez l'Espagne qui
vous évalue.
Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pour ça que s'il n'y a pas la dévaluation, il y a la question des écluses sociales.
Mais l'idée est que on remet en cause tout le système.
Oui, c'est pour
entièrement.
C'est même plus que l'agriculture. En vérité,
et en réalité, tout le monde sait très bien que ça n'est pas possible.
Est-ce que il y a un cas particulier qui est celui du RN qui est très intéressant? Ça fait 10 ans que le Rassemblement national réclame ça, les prix planchers.
Oui, mais parce que c'est la solution facile.
Et Jordan Bardella, au moment du salon de l'agriculture, a pris de court tout son parti pour être tout à fait clair, en disant mais en fait finalement non plus. Comment ça s'explique ça?
Mais vraisemblablement, le Rassemblement national que je ne connais pas à part médiatiquement. Ils ont recruté quand même beaucoup, beaucoup de cadres et de technocrates, quelque part, dans leur depuis quelques années.
D'accord, ils ont compris, eux aussi, et que, économiquement, c'est une quadrature du cercle, et on ne peut pas prendre le problème par ce biais-là.
Et je pense déjà que si nous, Français, nous achetions en priorité des produits français, on parle de la fraise, donc là où il y a une différenciation évidente, il y a des produits sur lesquels il n'y a pas trop de différenciation, et faisons attention aussi aux effets de prix. Aujourd'hui, on a 9 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Les prix alimentaires ont augmenté de 20% en 2 ans. Et en gros, on est, si on compare aux autres pays européens, on est, d'après les statistiques d'Eurostat, on mange, ça nous revient 5 à 10% plus cher que nos voisins. On mange pas pareil.
Marianne, on a publié pour des exemples, par exemple, du chicon, des endives du Nord.
Chicon, chez moi aussi, mais on va dire endives, pour ceux qui
vous avez quand même, concrètement, des marges pour la grande distribution qui sont énormes. Donc, il y a quand même une capacité à pouvoir, même si vous augmentez le revenu de l'agriculteur, à ce que ça ne soit pas répercuté par les prix. Pour répondre à votre question, Bérangère, sur la question politique, c'est que vous avez un drame, une sorte de contradiction au sein de tous les partis politiques français qui ont L'exemple de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est de ce point de vue très intéressant, même passionnant. Vous avez tous les députés français, hormis ceux de Renew, c'est-à-dire les macronistes, ont voté contre l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et au sein de leur propre groupe, les LR au sein de PPE, ils avaient voté contre, PPE a voté pour. Les socialistes français ont voté contre, au nom de certaines formes de protectionnisme. Ils étaient à l'intérieur d'un groupe sociodémocrate européen qui ont voté pour. Les Verts, la même chose. Vous avez des Verts dites pastèques, un peu rouges, chez les Français, qui se retrouvent à l'intérieur de Verts scandinaves libéraux, qui, eux, sont favorables au libre-échange. Donc, effectivement, ils ont pris quand même un peu conscience que, eh bien, je dirais, le prolongement politique de cette mesure allait se heurter au niveau européen à une forme d'impuissance, ou plutôt de minorité politique.
On va clore ce sujet parce que je voudrais qu'on ait le temps de parler du Rwanda et c'est passionnant. Merci beaucoup Jean-Marie Cerroni, on y reviendra forcément. Je rappelle, je vais donner le titre de votre livre, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète.
L'homme avec un grand H.
Absolument. Merci beaucoup d'être passé par les informés. Alors, le Rwanda, vous le savez, commémore dimanche, les 30 ans du début du génocide, 800 000 morts en 1994, essentiellement de la minorité Tutsi. Et cette question, 24 heures après les mots d'Emmanuel Macron qui dit que la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Cette question, donc, va-t-il assez loin avec cette repentance? De nombreuses voix réclament un mea culpa, voire la reconnaissance d'une complicité. C'est le cas d'Alain Gauthier, cofondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda. Écoutez.
Il faut quand même se rappeler qu'au Conseil de sécurité, la décision de réduire drastiquement le nombre de soldats de la mission des Nations Unies a été prise dès le début du génocide et en particulier la France jouait un rôle important dans cette décision du Conseil de sécurité. Nous annoncer que la France n'a pas eu la volonté d'arrêter le génocide. Pour nous, on ne peut pas se contenter de cela. Il faut aller bien plus loin, surtout pour les rescapés que nous représentons. Il faut qu'on arrive absolument à reconnaître la complicité du gouvernement français de l'époque avec un gouvernement génocidaire.
Voilà, complicité. Véronique Reissoult, sur les réseaux sociaux, vous voyez quel genre, comment ça réagit à l'approche de cet anniversaire?
Beaucoup de réactions, évidemment, sur place, pour fêter cette date triste et difficile. Beaucoup d'appels à la cohabitation et pas tant d'attaques que ça sur la France. C'est plus un sujet entre eux. À Kigali, il y avait beaucoup de messages sur on peut vivre ensemble et une réelle connaissance du sujet. Après, quand on regarde qui s'exprime par ailleurs et en particulier en France, il y a des sujets des diasporas qui demandent effectivement qu'il y ait une repentance un peu plus forte, mais c'était il y a 30 ans. Et la réalité, c'est que quand je regardais ce qui se disait cet après-midi, on voit bien que la jeune génération ne connaît pas forcément cette histoire, elle n'est pas si connue que ça. Ils ont fait beaucoup de parallèles avec Gaza dans ce que je lisais cet après-midi, en disant, mais donc s'il y a une responsabilité, est-ce qu'on ne doit pas se poser la même chose aujourd'hui, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce parallèle, et en fait, c'est une réalité aujourd'hui, et donc la responsabilité d'un État, ils le vivent plutôt par rapport à aujourd'hui. Ensuite, il y a énormément de témoignages assez terribles, parce que c'est le propre des réseaux sociaux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup de violence, mais aussi souvent de l'émotion et des informations, et donc beaucoup de témoignages des uns et des autres qui racontent, et puis après, malheureusement, Franck l'évoquait tout à l'heure, cette bipolarisation qui a presque à chaque fois... Là, on la ressent très fortement avec des gens qui considèrent que oui, il faut aller plus loin et d'autres qui disent ça suffit, la repentance, c'était il y a longtemps, on ne peut pas rejuger à l'aune de. Et donc, on sent bien que ça devient un sujet plus politique, plus polarisé et assez excessif.
On en parlait déjà brièvement hier dans les informés. Emmanuel Macron a beaucoup évolué déjà. Mais cette quand on commence à parler de complicité, d'aller plus loin, Béatrice Mathieu.
Non, mais pour le moment, Emmanuel Macron reprend juste les mots qui ont été ceux du rapport Duclert et qui
Absolument.
Ont été remis en 2021 et qui pointaient de façon très claire ce rapport d'historien, en fait, la responsabilité lourde et accablante. C'était les mots qui étaient employés. Donc là, pour l'heure, il reprend ces ces mots-là. Je pense que c'est très, ce qui est très intéressant, c'est le parallèle que vous faites aujourd'hui. Pourquoi il avance beaucoup sur ce sujet-là? Peut-être aussi parce que dans une partie de l'opinion, il y a le parallèle qui est fait avec Gaza. Et donc ça, c'est politiquement, en fait, c'est quelque chose qui compte quand même. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin et parler de complicité? Je pense que on en est pas là. On peut faire un mea culpa, et c'est ce qu'il fait et qui pointe la responsabilité lourde et accablante de la France. Le mea culpa, c'est un peu ça. Aller beaucoup plus loin, c'est compliqué. En revanche, ce qu'on peut se demander, c'est qui est responsable de France ?
Absolument.
Qui est responsable ?
On va se replonger dans l'époque, peut-être juste après le fil info, si ça vous va. Stéphane Milhomme est en place pour le dérouler. 20h51.
Après les révélations de France Info et Le Monde, Nestlé prend des mesures pour la qualité de ses gisements d'eau en bouteille. Le géant de l'agroalimentaire assure avoir intensifié la surveillance de ses forages français. Pas suffisant pour les écologistes. Ils veulent saisir la Commission européenne et exigent le retrait de toutes les bouteilles des rayons. Le gouvernement dénonce un crime barbare après la mort de l'adolescent de 15 ans passé à tabac hier devant son collège à Viry-Châtillon. Depuis, un suspect de 17 ans est en garde à vue à Montpellier. Cette fois, trois mineurs sont maintenant déférés au parquet. L'un d'eux, 15 ans, pourrait dormir ce soir en prison. Ces adolescents ont reconnu avoir agressé mardi Samara, 13 ans, après un différend, cette fois sur les réseaux sociaux. Le géant américain Meta identifiera à partir du mois prochain les sons, les images, les vidéos générées par l'intelligence artificielle sur ses supports. Le but est de marquer des étiquettes spécifiques sur ses contenus trouvés sur Facebook ou encore Instagram, plutôt que de les supprimer. Lille face à Marseille, c'est dans 10 minutes le coup d'envoi de la 28e journée de Ligue 1 de football. Et à 21h10, les footballeuses françaises joueront face à l'Irlande. Un match, cette fois, de qualification pour l'Euro 2025, à suivre depuis le stade de Metz.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Véronique Lessoult est là pour Backbone Consulting. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. On s'interroge sur cette idée de complicité. Alain Gauthier, le cofondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda qu'on entendait tout à l'heure, dans l'interview de ce midi sur France Info, va plus loin. Il dit, quand je parle de complicité, c'est pas complicité de la France. C'est complicité des, il vise les responsables politiques en charge à l'époque, en 94. Donc, François Mitterrand était président de la République, il n'est plus là, mais Hubert Védrine était secrétaire général de l'Élysée, Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin était son directeur de cabinet. C'est là qu'il imagine d'aller, Franck Dedieu.
La complicité, la notion de complicité, c'est une accusation très grave.
Absolument.
Donc il faut faire attention quand on avance et qu'on nomme des responsables de ce niveau-là. C'est pas pareil que de parler d'appréciation, d'erreur d'appréciation. Et moi, je trouve que c'est toujours pareil dans ce genre de... Vous avez parlé de... C'était hors antenne, peut-être pas, à propos de l'Algérie.
C'est-à-dire que la conversation continue.
Oui. C'est que, ça, en fait, il y a toujours une
c'est
grande...
intéressant, le parallèle.
Il y a une grande difficulté... pour un pouvoir politique, de dire l'histoire, de dire la vérité et d'assumer des parties sombres. Et puis, quelque part, d'assumer aussi une nécessité de ne pas tomber dans une forme de masochisme national. Parler de récit national, de parler des heures qui sont... Voilà, vous avez Marc Bloch qui parlait de vibrations sur le récit national, à propos du sacre de Reims et de la fête de la Fédération. Il parlait de vibration. Et donc, c'est vrai que, pour un pouvoir politique, il y a à la fois la nécessité, et quelqu'un comme Jacques Chirac a réussi cet équilibre-là, à dire le réel et à l'assumer, et puis à assumer aussi l'idée que un peuple a besoin de quelque chose d'un peu épique.
Mais Emmanuel Macron dit « la France aurait pu arrêter le génocide ». Et n'en a pas eu la volonté. Donc, il dit ce que vous dites. Donc,
oui,
quelles conséquences?
Il ne parle pas de complicité, je suis désolé.
Non, mais si la France n'a pas eu la volonté. Béatrice Mathieu.
Non, mais je pense que il y a une phrase aussi qui est très intéressante que j'ai retrouvée dans un compte rendu d'une commission rwandaise. Uh-huh. Qui dit très clairement, la France a rendu possible un génocide qui était prévisible. cette phrase est extrêmement forte. Elle ne dit pas, la phrase ne dit pas complice. Elle dit la France a rendu possible un génocide qui était prévisible. Possible parce qu'il y a eu continuation. On a été du camp, on a fait cause pour le gouvernement qui était en place depuis 4 ans, parce qu'on a continué de livrer des armes, parce qu'on a aidé aussi à la fuite de certains génocidaires.
Bernard Cressoul, juste pour conclure dans les commentaires que vous voyez. Alors
L'intérêt des réseaux, enfin voilà, de pouvoir regarder, c'est que vous pouvez voir ce qui se passe aussi sur place. C'était plus aujourd'hui des sujets autour du prévisible, justement. Le sujet de la France, il se pose la question, mais globalement, il se pose la question entre eux. Et puis, c'est l'histoire de « et maintenant ». Donc le récit national français les touche moins, et c'était peu repris objectivement aujourd'hui, alors que ça aurait pu être un sujet exploité et discuté. Ça l'est, mais pas tant que ça.
Emmanuel Macron, lui, attention, ne sera pas à Kigali pour les commémorations, parce que c'est dimanche les commémorations de Dizieux. Mais il envoie 2 ministres qui sont Hervé Berville, qui est lui-même Rwandais, orphelin, Tutsi, et Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, qui seront là-bas pour les commémorations. Allez, il nous reste quelques secondes pour jeter un œil aux unes de l'Express. D'abord, Béatrice Mathieu, cette semaine.
Eh bien, une superbe enquête sur l'ampleur du trafic de drogue en France et comment ces quartiers sont gouvernés par les dealers.
Franck de Dieu, à la une de Marianne cette semaine.
Les tocards de l'économie, on parle de la dette. Et pourquoi cette austérité qui va se tomber sur nos épaules ne marche pas et n'a jamais marché? On a la démonstration, lisez Marianne.
Les tocards de l'économie. Merci à tous, merci aussi à Véronique Ressoult. Les informés tout le week-end, c'est Victor Maté qui prend le relais à 20h. Et nous, on sera là lundi soir. Bonne soirée.